Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'émission que voici est la suite d'un entretien en 12 volets que l'écrivain Roger Caillois accorda à Janine Worms en 1970. Dans ce quatrième épisode, l'écrivain évoque l'importance des mythes, les récits mythologiques étant selon lui l'une des manifestations les plus remarquables de l'imaginaire humain.
Roger Caillois, de même que vous êtes intéressé aux rêves et à la guerre, vous vous êtes intéressé aux mythes. Du moins, c'est le titre d'un de vos premiers livres, « Le mythe et l'homme ». Tout d'abord, dans quel sens employez-vous le mot « mythe » Parce qu'à lire le contenu de l'ouvrage, le mot « mythe » n'est pas employé dans le sens dans lequel on l'employait jadis.
À cette époque-là, j'étais assez ennemi de la littérature et je le suis resté assez longtemps. La littérature me paraissait quelque chose de frivole et de pas très bien établi. Mais elle m'intéressait en sens que c'était tout de même un phénomène de l'imagination. Or, ce qui m'a intéressé toute ma vie, ce sont les manifestations de l'imaginaire. Et le mythe est une de ces manifestations. Et elle me paraissait à la fois différente de la littérature et préférable à celle-ci, parce que de la littérature est quelque chose qui me semblait gratuit, et en tout cas individuel, personnel. Le mythe est une imagination, mais ça n'est pas une imagination arbitraire. En plus, c'est une imagination sérieuse, parce qu'on y ajoute foi, n'est-ce pas ? Un mythe n'est pas un conte, ça n'est pas un conte de fées. Un mythe pour quelqu'un, il ne le considère jamais comme un mythe, c'est un peu comme le rêve en ce sens-là. À partir du moment où le mythe est reconnu comme mythe, ça n'est plus un mythe, c'est une histoire. Il faut donc que le mythe soit objet de croyance. Et pour qu'il soit objet de croyance, il faut qu'il attire à lui une espèce de crédibilité. Et cette crédibilité ou ce contenu du mythe ne peut donc pas être arbitraire, ne peut pas être gratuit. Il est anonyme et important. Et important en ce sens que comme il est l'objet d'une croyance, il risque d'infléchir la conduite de ceux qui croient en lui. Et c'est pourquoi, au contraire de la littérature, qui me paraissait comme une chose légère, je m'adressais au mythe comme quelque chose de beaucoup plus substantiel, et qu'il fallait considérer avec tout le respect qui lui était dû, en quelque sorte. Ce qui m'intéressait, c'était le côté un peu ambigu du mythe entre la religion, c'est une religion racontée, et une religion qui repose sur des rites, sur une liturgie aussi, mais qui n'est tout de même pas, qui n'entraîne pas les formes, disons, extrêmes de la religion, et qui sont la mystique et l'identification avec Dieu ou l'illumination extatique, n'est-ce pas ? C'est une histoire que l'on reconstitue et de laquelle on s'efforce de s'approcher et même de coïncider avec celui qui est le héros de ce récit.
Je voudrais quand même vous poser deux questions à ce propos. Vous vous référez à la religion. En effet, le mythe est une des formes anciennes d'un rite religieux. Et ça, j'aimerais peut-être vous spécifier
davantage. Mais toujours, les mythes, c'est la religion des autres.
Oui.
On n'oserait pas appeler les mythes sa propre religion. Je me souviens qu'une maison d'édition, au moment où j'ai publié L'homme et le mythe, m'a demandé de faire une mythologie universelle. J'y ai inclus le christianisme. Ça a fait scandale et le directeur, c'était pas le directeur littéraire, mais l'homme qui était le plus influent dans cette maison, qui était André Gide, s'y est opposé. On a beaucoup exagéré la liberté d'esprit d'André Gide, vous savez.
Néanmoins, c'était donc attaché, par religion, j'entendais une religion constituée, officielle, etc. Le mot mythe de nos jours, et vous l'employez dans ce sens, a un autre sens, parce que quand vous parlez du mythe de Paris, par exemple, ça ne se réfère pas à une religion définie.
Non,
d'autre part.
Mais le mot mythe de nos jours, alors là, je le trouve beaucoup, très abusivement employé. Alors, il est employé à peu près à propos de n'importe quoi, et ça, c'est exagéré. Et quand j'ai employé le mot mythe de Paris, il ne s'agit pas d'une chose religieuse, c'est entendu, mais il s'agit aussi d'une création anonyme, qui a force coercitive et auquel était attachée une certaine crédibilité. On pensait vraiment que Paris, au XIXe siècle, au moment où le mythe s'est constitué et s'est développé, était ce qu'on appelait alors la Babylone moderne. Et on a inventé un Paris tout à fait imaginaire, avec des, enfin, tout à fait, j'exagère, mais tout de même avec des souterrains, avec des monuments
truqué, en fait, tout à fait un Paris de fantasmagorie. Et c'est ça que j'ai appelé le mythe de Paris, de cela, et la fascination qu'exerçait la grande ville naissante.
Vous dites que ce mythe de Paris naît en même temps que se répand la lecture, au moment où les gens apprennent tous à lire, se répand le mythe de Paris. Et vous rattachez aussi la naissance du mythe de Paris à la naissance de la police secrète.
Oh, je le rattache à beaucoup d'autres choses. Je crois que le mythe de Paris est né de la Révolution, en grande partie de la Révolution française, et même un petit peu avant la Révolution française, au moment où la ville a pris une animation qu'elle n'avait pas. Alors, je serais tenté de rattacher presque la toute première naissance à la mode des restaurants. Les restaurants sont multipliés, les gens se sont rencontrés dans les restaurants, dans les cafés, et alors à partir du mouvement où il y a eu en plus les journées révolutionnaires, les défilés dans les rues, les clubs, les rassemblements, eh bien tout cela a produit une espèce de fièvre, n'est-ce pas, et qui était tout à fait nouvelle dans une ville qui ne se différenciait pas avant d'un gros bourg, qui n'avait même pas, on peut dire, de vie mondaine ou de vie luxueuse, puisqu'elle était concentrée à Versailles, à la cour à Versailles. Mais déjà, avec Rétif de la Bretonne, eh bien, le Paris mystérieux commence à naître. Et n'oubliez pas que la Révolution française a eu comme caractéristique la lutte de Paris contre les provinces. C'est à Paris que tout se passait, et la rivalité entre les Girondins et les Montagnards a été en grande partie une lutte entre les clubs de Paris et ceux qui voulaient réduire, comme il disait, Paris à son 80e d'influence, c'est-à-dire à un département parmi les autres. Mais comme vous savez, ça ne s'est pas produit.
Mais ne croyez-vous pas que Paris n'apparaît en tant que mythe et en tant que ville simplement du fait qu'avant la Révolution, la littérature était toujours aristocratique et ignorait complètement un Paris peut-être existant, mais populaire, dont elle ne faisait pas mention?
Elle n'était pas si inexistante, n'oubliez pas la littérature de colportage, n'est-ce pas, qui existait déjà. Et puis, ça n'est pas à partir de la Révolution française que les gens ont su lire. Il a fallu une bonne génération. D'ailleurs, c'est à la seconde ou à la troisième génération que le mythe de Paris prendra son plein essor. Plus justement, tout à l'heure, vous faisiez allusion à la police secrète. Eh bien, alors ça, ce n'est pas la Révolution, c'est l'Empire. Eh bien, il est certain que l'institution de la police secrète, par Fouché, le fait que l'on ne sache plus si la personne que l'on rencontre, ou le garçon de restaurant, comme nous en parlions tout à l'heure, ou la personne que l'on rencontre dans la rue, ou dans la diligence, n'est-ce pas, ou le voisin n'est pas quelqu'un qui vous espionne et qui appartient à une vaste association et qui vous surveille, qui vous contrôle, et qui a une puissance insoupçonnée, eh bien, je suis persuadé que c'est ce qui a aidé beaucoup la naissance du mythe de Paris, qui, comme j'ai essayé de l'expliquer, est né de la transposition de la savane de Fenimore Cooper dans le décor urbain.
Cette police secrète à laquelle vous faites allusion, alors que Paris, je crois, je voulais d'ailleurs vous en poser la question, a cessé d'être un mythe. Vous en conviendrez peut-être, ou bien peut-être ne le pensez-vous pas?
Si, je crois que Paris est en train de cesser d'être un mythe, mais c'est pour d'autres, de toute autre considération. Mais peut-être avant de parler de la décadence du mythe, faudrait-il voir comment il s'est développé. Il s'est développé à cause du décor urbain, du développement des gares, par exemple, au moment où on a inventé les chemins de fer. Le lieu de rassemblement qu'ont produit les gares a été très important. Et puis, les grands magasins, qui s'appelaient à ce moment-là les Deux Magots, la Fille Malgardé ou le Diable Boiteux, c'était très important également. Et puis la bourse, dans la progression, est considérable pendant la première partie du Second Empire. Alors le monde de la bourse, c'est-à-dire d'une richesse un peu occulte, et en tout cas nouvelle. Et toute cette agglomération urbaine qui fascinait la province, et attirait les Rastignac et les Julien Sorel, et puis ce décor des grandes avenues, des maisons de pierre, la transformation de Paris à cette époque-là, tout ça a créé un décor qui est apparu à des poètes comme Baudelaire ou à des romanciers comme Balzac, exactement l'équivalent du décor épique tel qu'on trouvait dans l'Iliade. La comparaison entre les héros de Balzac et les héros d'Homère n'est pas du tout gratuite. fortuite ni tardive. C'est Baudelaire qui l'a souligné. Et c'est parce que Baudelaire était partisan de ce qu'il appelait la modernité. Et la modernité, pour lui, c'était la ville. Baudelaire n'est pas du tout quelqu'un qui s'intéresse aux paysages ou aux montagnes ou à ce qu'on appellerait aujourd'hui toute la vie rurale, n'est-ce pas ? C'est un homme qui est farouchement attaché à la ville et qui la considère comme un ensemble à peu près aussi mystérieux que Balzac l'a considéré dans un livre comme l'Histoire des 13, par exemple, où il suppose que toute la France est aux mains de 13 aventuriers implacables avec, comme il dit, des gants jaunes et une redingote et qui, sans que personne sache même leur nom, sont les maîtres de la France. Et c'est ça le Paris mythique, en même temps que Rastignac, qui du haut du cimetière Montmartre, si je me souviens bien, interpelle Paris en lui criant un ou deux, enfin c'est la lutte du conquérant et de la ville conquérie. Cette scène n'est pas du tout d'ailleurs particulière à Balzac, on la retrouve dans les romans populaires, en particulier dans Rocambole. Et dans les Chants de Maldoror, Lautréamont introduit au moins deux, trois fois la même idée d'un Paris mystérieux, satanique, énigmatique, dont le promeneur ne voit que l'apparence, ne voit qu'un décor trompeur.
Ce réseau secret dont vous dites qu'on supposait Paris doublé existe toujours maintenant, mais semble s'être, à travers les romans populaires et policiers, transporté en Amérique, où on parle de la Cosa Nostra, de la mafia, de toutes ces choses.
Mais il ne s'est pas...
Amérique souterraine.
Non, il s'est transporté dans la mafia, mais beaucoup moins qu'il n'a existé à Paris, parce que ce qui fait que le mythe de Paris est en décadence, à mon avis. Ça n'est pas peut-être uniquement parce que Paris n'est plus la plus grande ville du monde, mais vient loin après, par exemple, Tokyo, Londres ou New York, n'est-ce pas? Mais c'est parce que le mythe est parvenu à son point d'épuisement, n'est-ce pas? Parce que après cette première génération, caractérisée par Baudelaire, Balzac, Lautréamont, il y a eu un autre mythe de Paris qui est celui, par exemple, des romans policiers comme Pierre Véry, qui imagine que tout est truqué. Alors, depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à la préfecture de police, jusqu'à Notre-Dame, et puis surtout Fantômas, qui était de la littérature populaire et qui là était franchement allé pousser le mythe jusqu'au bout, puisque même les grands magasins sont truqués. On a remplacé au flacon des parfums l'essence de rose ou de violette par du vitriol. On a introduit des lames de rasoir dans les chaussures des clientes, n'est-ce pas? Si bien que les grands magasins eux-mêmes deviennent des lieux infernaux. Et par exemple, quand une femme a été enlevée et qu'on veut la cacher, on la dissimule dans une des statues de la place de la Concorde. Il est évident qu'il y a un moment où on ne peut plus aller plus loin. Ça n'est pas possible, on est arrivé au bout, le mythe éclate. Et par conséquent, il faut chercher autre chose. Et bien, cette autre chose, on le trouve non seulement dans les autres villes, mais ça n'est pas tellement les autres grandes villes qui ont gagné. Ce sont les petites villes plutôt, les villes neutres. Et ceci à cause de la guerre. N'est-ce pas? À cause de la guerre, parce que c'était en terrain neutre que les espions pouvaient lutter. Alors c'est plutôt Genève ou Lisbonne qui ont gagné, qui sont devenus vraiment les lieux de rencontre des forces antagonistes. Et je crois que c'est une des raisons qui ont fait que le mythe de Paris a perdu beaucoup de son pouvoir de fascination sur les imaginations modernes.
Je me doutais bien que ces villes hygiéniques étaient pleines de maléfices, et je suis contente de me voir confirmée par vous dans ces théories.
C'était Roger Caillois au micro de Jeannine Worms, quatrième volet d'un entretien en 12 parties, première diffusion de cette émission le 2 avril 1970. À suivre.